Bonjour à tous, nous sommes de retour avec le magazine politique. Vous l'attendiez et vous l'attendiez, mais vous attendiez surtout notre invité de ce jour, c'est Alexia Bertrand, qui est la chef de groupe du MR au Parlement bruxellois, puisque c'est dans notre cycle des parlementaires bruxellois, du gouvernement bruxellois, que nous l'accueillons. Paul, je te passe la parole pour une présentation plus détaillée.
Et bonjour, bonjour Alexia d'abord.
Bonjour Paul, bonjour.
Alors, ben voilà, l'histoire d'Alexia, elle est née à Anvers, on peut le dire, à Wilreg, si je ne m'abuse. Elle a 42 ans, ce qui ne se voit pas évidemment. Elle est mariée, son mari travaille d'ailleurs dans l'IMO, et elle est maman, trois enfants, ce qui est quand même assez remarquable, dont deux jumeaux, ce qui doit représenter quand même pas mal de travail. Alors Alexia est juriste, elle est avant tout une grande juriste. Elle est licenciée en droit de l'UCL en 2002 et elle a également été assistante en droit commercial à l'UCL entre 2002 et 2007. En 2005, elle fait un master en droit aux États-Unis à l'université d'Harvard. Elle a même été, ai-je lu, membre du barreau de New York. Ça, c'est incroyable. Et puis, elle a été avocate également au barreau de Bruxelles, notamment dans deux grands cabinets anglo-saxons, dirions-nous, Clifford Chance et Linklater. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, je trouve qu'elle a le bon profil pour se présenter, pour être la première bâtonnière au barreau de Bruxelles. Il n'y a encore jamais eu de femme en tant que bâtonnier, si je puis dire. Je ferme la parenthèse, ça c'est une petite idée. Mais il faudrait qu'elle arrête la politique, évidemment. Donc, mais sinon, elle serait parfaite, à mon avis. Alors, elle rentre en politique en 2012, où elle intègre le cabinet de Didier Reynders, et elle se présente pour la première fois aux élections communales à Woluwe-Saint-Pierre, sa commune de prédilection. Elle est sur la liste de Willem Draps et elle aboutit dans l'opposition puisque c'est Benoît Serec, si je ne m'abuse, qui devient le bourgmestre. Alors en 2015, c'est un moment important. Puisqu'elle devient chef de cabinet Didier Reynders. Je précise qu'il ne s'agit pas du Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, mais du vice-premier ministre, ce qui élargit évidemment le spectre des matières concernées, ce qui représente un travail très conséquent au niveau de la négociation. Alors en 2018, aux élections communales, elle est à ce moment-là tête de liste MR, toujours évidemment à Woluwe-Saint-Pierre, et elle fait quand même 3187 voix de préférence, qui est un très très beau score, très très beau score. Et malgré ce score élevé, elle reste dans l'opposition, si je puis dire. Alors, et en 2019, ça c'est les élections régionales, elle est élue au Parlement bruxellois et elle devient chef de groupe, comme l'a dit Philippe, du MR au Parlement bruxellois, au Parlement régional évidemment. Et elle s'occupe donc du premier parti de l'opposition, c'est quand même important à préciser, avec David Lester qui est donc le chef, le président de, on va dire, de la régionale bruxelloise du MR. Alors c'est aussi, quand même, j'ai découvert que c'était une femme d'influence, si je puis dire, c'est une femme politique, oui, c'est une femme, oui, elle est quand même administratrice de société. Elle est administratrice, je crois, chez Guberna. C'est également, et ça c'est plutôt caritatif, humanitaire évidemment, et recherche scientifique, la Fondation Saint-Luc, qui est une très très belle institution. Ouais. Et alors une petite question un peu perverse, si je puis dire. Elle est membre de la commission trilatérale. Alors c'est quoi la trilatérale ?
Alors la commission trilatérale, c'est un groupe qui est une émanation du groupe du Bilderberg et qui regroupe des personnes de trois continents, de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique, et qui se réunit deux fois par an pour parler de sujets extrêmement divers et variés. Ça regroupe tant des économistes que des gens actifs dans le monde politique ou des académiques et des journalistes. Et c'est tout à fait passionnant.
Ah oui, mais est-ce que Étienne d'Avignon n'était pas membre de ce fameux groupe Je me souviens qu'est le Bilderberg.
Alors, c'est possible, je devrais vérifier, mais nous n'y avons pas siégé ensemble, en
voilà.
Tous les cas.
C'est une autre génération. Alors, je dirais qu'au niveau du profil, du caractère, on dit d'elle qu'elle est studieuse, classique, appliquée, disciplinée, une femme intelligente, mais sympathique, qui a de l'humour. Ça, c'est un article de Martin Buxan dans l'Écho qui faisait un peu le portrait d'Alexia. Et alors, pour moi, il y a évidemment un mystère Alexia Bertrand qui est le suivant, c'est qu'elle a fait cette carrière de juriste, elle travaillait dans les plus grands cabinets d'avocats, elle était spécialiste du droit des sociétés, elle, comment dirais-je, elle est dans un environnement, évidemment, qui porte à l'esprit d'entreprise, etc., etc. Et malgré ça, elle choisit le masochisme, c'est-à-dire se lancer en politique, où on vient l'embêter vraiment, mais c'est parfois au ras des pâquerettes, malheureusement, la politique. Et donc, d'où vient cette idée, tout d'un coup, de quitter cette carrière parfaite et d'aller en politique, en plus au niveau bruxellois ?
Je crois que j'ai toujours été passionnée par les enjeux de société. Et déjà, quand j'étais plus jeune, j'avais participé au Parlement européen des jeunes, quand j'étais en 5e humanité. J'avais trouvé ça extraordinaire. Et puis, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on dînait ou qu'on prenait un verre avec des copains, on finissait par râler sur la politique. Et donc, tous les dîners terminaient comme ça. Et puis, un jour, je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas passer son temps à râler sur le politique et à être mécontent si on mouille pas sa chemise et si on n'en fait pas soi-même. Et donc, voilà, j'ai décidé que j'allais me lancer. Et c'est vraiment sans regret, parce que c'est passionnant. Et j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement. J'ai découvert des sujets, des enjeux, j'ai rencontré des habitants de la région bruxelloise, des entrepreneurs, des gens qui ont lancé des projets absolument extraordinaires. Et c'est vrai que ça, c'est mon bonheur quotidien en politique.
Eh bien, voilà des éléments intéressants pour nous réconcilier avec la vie politique. Et effectivement, c'est souvent considéré comme assez dur, mais engagez-vous, n'hésitez pas, c'est le premier message de ce jour d'Alexia Bertrand. On revient dans quelques instants, mais une petite bouffée musicale pour réfléchir à ce qui vient d'être dit. Nous sommes de retour, comme promis, avec Alexia Bertrand. Rebonjour Alexia.
Bonjour.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur Bruxelles 2030, année importante pour Bruxelles, importante pour la Belgique. Paul ?
Oui, absolument, c'est un peu le fil conducteur de notre émission, Bruxelles 2030, partant du principe d'abord que c'est le bicentenaire de la Belgique, ce qui est déjà pas mal, plus d'autres échéances qui se profilent à l'horizon. Alors, quelle est votre vision, je dirais, de ce Bruxelles 2030 ? Quel est le rêve d'Alexia Bertrand pour Bruxelles en 2030 ?
Alors, j'ai beaucoup de rêves pour Bruxelles en 2030. Je voudrais d'abord une région qui soit mobile. Une région où on a fluidifié les déplacements dans la région parce que c'est indispensable pour le développement de la région. Donc c'est de mettre en place une multitude de projets, ça passe vraiment par l'intermodalité. Donc en 2030, j'imagine une région où la voiture individuelle aura sans doute moins d'empreintes parce qu'il y aura un nouveau système de mobilité qui fonctionne avec un abonnement unique dans une seule application mobile. Et donc l'idée, ce serait que tout le monde puisse facilement organiser son transport en ville en combinant le train, le métro, le tram, le RER, le bus, le vélo, la trottinette, la voiture partagée. Et puis ceux qui ont vraiment besoin de leur voiture, évidemment, et qui ne peuvent pas s'en passer, pourraient continuer à rouler en voiture, que ce soit dans une voiture électrique, dans une voiture fonctionnant à l'hydrogène, ou en tout cas une voiture qui ne soit pas émettrice de CO2. Je rêverais aussi d'une ville ou région où les entreprises auraient évolué dans leur mentalité et où des jeunes, peut-être au lieu de recevoir une voiture de société, pourraient rembourser leur crédit hypothécaire avec un budget qui serait alloué pour ça, pour rénover sa maison, pour isoler sa maison, pour rembourser son crédit. Et donc, ce qui permettrait à des jeunes de pouvoir se loger à Bruxelles, où le logement, on sait, est de plus en plus coûteux. Je rêve aussi d'une ville en croissance propre. On entend beaucoup de gens parler de la décroissance aujourd'hui, c'est pas mon credo. Moi, je rêve qu'on remplace toutes les technologies par des technologies qui soient propres, et donc une ville où il y a vraiment de l'innovation, de l'entrepreneuriat, où les jeunes et les gens de partout aient envie de venir s'y installer parce que il y a un bouillon d'idées qui se fait en matière d'innovation et d'entrepreneuriat. Je rêve aussi d'une ville propre. Parce qu'aujourd'hui, Bruxelles est sale et que je pense que les entrées de la ville sont sales. Donc, je rêve d'une ville où on a envie de venir. Et puis, je rêve d'une ville qui soit une région modèle sur des tas de plans et qui fasse en sorte que la classe moyenne arrête de fuir, que les entreprises arrêtent de quitter Bruxelles et qu'au contraire, elles viennent s'y installer parce qu'il y a des espaces verts, parce qu'il y a de la qualité de vie, parce qu'il y a une attractivité de Bruxelles et qu'on a pensé à un tourisme qui soit plus seulement le tourisme d'affaires, mais un tourisme aussi de loisirs. Et que donc, tous ces pans aient été développés avec créativité et succès.
Mais en fait, en 2030, il y aura plus d'habitants à Bruxelles qu'aujourd'hui.
Alors, il y aura plus d'habitants, mais en fait, les courbes démographiques ne sont pas aussi fortes que ce qu'on a toujours pensé. Mais c'est vrai que la région va continuer à augmenter son nombre d'habitants. Mais il y a aussi des questions de vieillissement de la population qui se posent moins à Bruxelles que dans d'autres régions. Des questions d'emploi, ça s'est fait partie aussi de mes rêves pour Bruxelles, c'est de ne plus avoir un jeune sur cinq qui soit au chômage comme aujourd'hui, c'est de ne plus avoir des employeurs qui sans cesse ont des offres d'emploi qui ne parviennent plus à remplir, et c'est d'avoir des systèmes de formation qui se fassent main dans la main entre le privé et le public. Et Laurent Hublet, qui est ici parmi nous, pourra nous en parler encore davantage, puisqu'il est l'exemple même du développement de ce type de formation qui se fait aux côtés et main dans la main avec des acteurs publics.
Comme il y a peu de chances que le territoire de la région bruxelloise grandisse, pour des raisons politiques et institutionnelles, la question du logement va devenir primordiale, évidemment, en 2030. Elle l'est déjà, évidemment. Alors, quelles sont vos idées, vos perspectives pour le logement à Bruxelles versus 2030, évidemment ?
Alors, je pense qu'on va devoir repenser le logement. Aujourd'hui, il y a une stratégie du gouvernement qui est l'idée du logement tout au public, en tout cas en ce qui concerne le logement social. Vous savez peut-être qu'il y a 49 000 ménages qui sont sur liste d'attente pour un logement social à Bruxelles. Ça fait des années que le gouvernement bruxellois annonce des plans de construction de logements sociaux qui, de législature en législature, en fait, ne sont jamais rencontrés. Nous, chez les libéraux, nous croyons vraiment dans le partenariat public-privé, nous croyons dans les agences immobilières sociales qui font un travail remarquable et qui, en réalité, en quelques années, ont des résultats qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on a vu en termes de logement social. Et donc ça, c'est une alternative extrêmement efficace au logement social, et ça permet en plus de retrouver des locataires sociaux un peu partout dans la ville, plutôt que d'avoir des lieux qui sont consacrés uniquement au logement social, et où on peut d'ailleurs du coup voir parfois une certaine stigmatisation, alors que notre vision de la ville, c'est vraiment une mixité. Nous croyons aussi dans la location loyer, qui est une technique qui permet à des gens d'habiter chez des privés, mais d'avoir un complément de loyer. À nouveau, ce sont des alternatives efficaces au logement social. Il y a aussi toute la question du logement moyen, Paul, à laquelle on doit penser. Il est devenu très difficile de se loger à Bruxelles, et vous aurez peut-être entendu que ces dernières semaines, ces derniers mois, le gouvernement flamand, lui, fait des abattements très très importants en matière de droit d'enregistrement, ce qui incite des jeunes couples à aller s'installer plutôt en région flamande, à quelques kilomètres de la frontière, plutôt qu'à Bruxelles, où le logement est devenu plus coûteux et où on a une politique qui n'est toujours pas adaptée en termes de droit d'enregistrement. Donc il va falloir songer à des réformes fiscales pour tous ces jeunes qui aujourd'hui ne savent plus payer un logement, même quand ils sont deux à travailler.
Alors 2030, tel que présenté, nous plaît manifestement ici, parce qu'il y a plein d'idées, plein de réflexions, plein de débats que nous pourrons initier dans d'autres séquences, effectivement, avec d'autres responsables politiques. Certainement, les débats risquent d'être constructifs, positifs, comme nous les voulons. Effectivement, merci beaucoup, Alexia, pour cet épisode sur Bruxelles 2030. On revient dans quelques instants, un peu de musique pour se permettre de réfléchir, bien sûr, à tout ce qui a été dit. Nous sommes de retour avec Alexia Bertrand. Rebonjour.
Bonjour.
Avec Laurent Hublet aussi, qui est arrivé entre-temps, qui nous a rejoint, effectivement, et qu'on va avoir dans quelques instants. Bonjour.
Bonjour.
Et bien sûr, Paul, pour continuer cette prospective de 2030, cet avenir que l'on espère radieux pour Bruxelles.
Alors avant de parler du campus digital avec Laurent, on va quand même parler d'une manière plus globale de l'économie, entre guillemets. Et forcément, pas de région sans développement économique, ou une croissance propre, c'est le terme que vous avez utilisé. Alors à Bruxelles, on a l'impression que parfois il y a des pesanteurs, il y a une certaine inertie. Est-ce que la région est totalement partenaire de la croissance, et qu'est-ce qu'elle peut faire pour améliorer dans la perspective 2030 ?
C'est vrai, c'est une très bonne question. On a parfois l'impression au Parlement bruxellois que le mot secteur privé ou privé est un gros mot, et que l'idée du partenariat public-privé est quelque chose de très difficile. Pourtant, les partenariats public-privés, c'est ce qui a permis vraiment de créer beaucoup de choses, que ce soit au niveau de l'infrastructure ou des projets de développement, et nous y croyons beaucoup. On a une région qui a beaucoup souffert de la crise Covid en matière économique. On sait qu'à Bruxelles, les primes ont été beaucoup moins importantes que dans les deux autres régions. Et qu'on a une série d'entrepreneurs, d'indépendants qui souhaitaient se trouver plutôt en Flandre ou en Wallonie pendant cette crise plutôt qu'à Bruxelles. Or, c'est une économie de services, une économie aussi où l'ORECA a un rôle important, une économie qui est fort basée sur l'international. Le rôle international de Bruxelles, que ce soit les institutions, que ce soit le tourisme, que ce soit tout ce qui tourne autour de la diplomatie internationale, ça représente 20% de l'économie et 23% de l'emploi à Bruxelles. Donc c'est vraiment énorme. Et là, on a l'impression que le gouvernement bruxellois a quand même raté le coche de la relance, en matière de tourisme notamment, où la Wallonie a créé une nouvelle image de marque l'été dernier, l'été 2021, en offrant un pass touristique, en trouvant un slogan et en travaillant main dans la main avec la Flandre, alors que la région bruxelloise a été attentiste et restée sur cette idée de tourisme d'affaires dont on voyait pourtant qu'il n'allait pas venir cet été, et ne s'est pas adressée aux Belges ni aux Bruxellois. Or, je crois qu'on a une région extraordinaire, avec des atouts culturels extraordinaires, un patrimoine fantastique, qui n'a pas suffisamment été mis en valeur, et où l'argent qui a été investi a raté la cible, puisque ça a été un véritable échec du pass touristique bruxellois, alors qu'en Wallonie, on peut conclure à une réussite, les secteurs en ont témoigné d'ailleurs.
Mais la configuration en Wallonie n'est pas tout à fait la même qu'à Bruxelles, qui est un territoire urbain. En Wallonie, il y a moyen de promouvoir des gîtes, des espaces verts, la nature, etc., surtout en vacances, en grandes vacances. À Bruxelles, ça me paraissait quand même un peu plus difficile.
C'est très vrai, Paul, et c'est juste, et je pense que les gens étaient en quête d'espaces verts, mais là où on aurait pu faire des campagnes créatives, c'était justement de travailler main dans la main avec la Wallonie ou avec la Flandre. Il y avait moyen d'imaginer des séjours où on allait quelques jours dans un gîte en Wallonie et puis on passait 2-3 nuits à Bruxelles et on faisait un séjour autour de certains thèmes. Les thèmes, ça pouvait être les institutions européennes, ça pouvait être le train, on a un musée du train qui est extraordinaire, ça pouvait être la bière pour certains, ça pouvait être l'art nouveau. Il y avait moyen de concevoir toute une série de parcours, mais pour ça, c'est vrai qu'il fallait probablement travailler ensemble avec les autres régions pour que les Belges puissent trouver à la fois du vert et aussi un peu de ville, avec des hôtels, des restaurants extraordinaires à Bruxelles. Je crois que ça fait plaisir à tout le monde de passer 2 jours en ville et de découvrir certains quartiers que les Bruxellois eux-mêmes ne prennent pas toujours le temps de découvrir. Donc il y avait moyen de mettre en valeur les atouts de Bruxelles.
Mais il y a un chiffre qui m'a frappé en lisant la presse récemment, plus de 2800 entreprises ont quitté Bruxelles pour une autre région. Ça donne froid dans le dos pour le développement économique de Bruxelles.
Alors, ça donne très froid dans le dos et malheureusement, ce chiffre n'est pas propre à cette année ou à l'année Covid. C'est un chiffre qu'on retrouve assez régulièrement, tant au niveau des entreprises d'ailleurs qu'au niveau de la classe moyenne en général. Et donc, c'est un problème d'exode de Bruxelles. Et pourquoi ? Pour des raisons de mobilité, des raisons quand on interroge les entreprises, hein, BCI fait régulièrement des sondages ou l'UCM, ce sont d'abord les raisons de mobilité, mais aussi de fiscalité, de propreté, et puis peut-être une culture aussi qui n'est pas suffisamment orientée sur le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on a davantage l'impression qu'on met des obstacles et des complications à l'entreprise plutôt que de leur faciliter la tâche sur le plan administratif. Et j'entends régulièrement des entrepreneurs me dire, vous savez, les primes sont plus intéressantes en Wallonie, c'est plus facile et donc je vais me situer en Wallonie. Alors que la région bruxelloise est à un carrefour, est au cœur de tout et qu'on devrait au contraire avoir envie spontanément de venir s'installer dans la capitale de l'Union européenne, dans la capitale de la Belgique.
Mais ce qui est étonnant dans le gouvernement bruxellois, c'est qu'il n'y a plus de ministre de l'économie. Il y a une secrétaire d'État à la transition économique. Donc ça, c'est plutôt l'économie de demain. Mais pour l'économie d'aujourd'hui, à la limite, il n'y a rien. C'est quand même étonnant, ça.
C'est vrai et c'est extrêmement dommage parce que je pense que toutes les entreprises aujourd'hui sont conscientes qu'il faut aller vers une forme de transition et je pense qu'elles ont toute envie de le faire. Et ce qu'il faut faire, c'est pas uniquement donner des primes et soutenir les nouvelles petites entreprises qui se lancent dans des activités qui répondraient pleinement à ces critères. Ce qu'il faut, c'est prendre le tissu de PME qui sont le cœur, le poumon de l'économie bruxelloise et les accompagner dans cette transition. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que tout est fait pour essayer de soutenir des toutes petites entreprises, et c'est très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, mais qu'on oublie toutes celles qui sont là, qui veulent modifier leur business model et qui ne demandent pas mieux que d'être accompagnées dans cette transition.
Eh bien, décidément, aujourd'hui, c'est très, très, très... très très rempli au point de vue des idées, de la créativité. Je trouve ça passionnant. Je crois qu'on va passer 3-4 heures plutôt qu'une heure.
Avec plaisir.
Ça serait encore mieux. Mais, il y a beaucoup d'autres candidats qui veulent se faire interviewer. Donc, on devra effectivement limiter. Paul, on revient dans quelques instants et un peu de musique auparavant et on va pouvoir discuter avec quelqu'un de passionnant, l'invité d'Alexia Bertrand, Laurent Hublet, dans quelques minutes après la musique. Le magazine continue et avec l'invité donc de Alexia Bertrand, Laurent Hublet. Alexia, pourrais-tu nous présenter Laurent Hublet, même si ce n'est pas vraiment indispensable parce qu'à Bruxelles, il est incontournable?
Je voudrais surtout dire pourquoi j'ai voulu que Laurent Hublet vienne nous parler aujourd'hui, parce que je crois qu'il fait partie de ces personnes qui fait vraiment bouger Bruxelles. Avec son projet Bicentrale, Laurent est sur tous les thèmes importants pour les Bruxellois et pour le monde de demain, que ce soit la digitalisation, on retrouve Bicode, que ce soit la formation, son projet extraordinaire aussi d'entrepreneuriat avec We Are Founders. Il travaille vraiment au cœur de la multiculturalité bruxelloise aussi, et donc dans des lieux, en plus dans un lieu qui est vraiment emblématique pour Bruxelles, la gare centrale, Laurent regorge d'idées et en fait fait bouger la région aux côtés du politique en travaillant toujours main dans la main avec l'ensemble des acteurs publics. Et donc je trouve que c'est le modèle par excellence du partenariat public-privé qui est réussi et qui porte ses fruits.
Eh bien voilà des compliments, mais qui sont justifiés? Parce que nous suivons effectivement ce qui se passe. Nous avons déjà eu Laurent Hublet lors de certains débats. Alors, Paul, peut-être quelques questions à Laurent.
Peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas Bicentrale, peut-être un résumé. Le pitch de Bicentrale, c'est quoi?
Donc Bicentrale, c'est quoi? C'est un campus numérique, c'est-à-dire que c'est un lieu d'apprentissage et d'entrepreneuriat dans la gare centrale de Bruxelles. Et c'est une start-up, ça fait 4 ans qu'on existe, donc on a commencé tout petit. Mais c'est d'abord et avant tout un projet impact. Donc aujourd'hui, en 4 ans, il y a 330 000 personnes qui ont bénéficié d'un apprentissage, d'une formation entre 6 ans et 66 ans via un des projets qui est basé chez nous. Donc au total, il y a une soixantaine de projets qui sont basés dans la gare centrale aujourd'hui.
Et pour un jeune qui voudrait suivre les cours de Bicentrale, comment ça se passe? C'est pas l'université, donc est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il faut payer quelque chose? Est-ce qu'il y a un Minerval? Je ne sais pas.
Alors ça dépend. Donc nous, on héberge à Bicentrale plein de programmes différents autour de la technologie numérique. Donc ça peut être de la programmation, de l'intelligence artificielle, du digital marketing, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le numérique, c'est plein de métiers différents. Ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver une formation qui convienne à chaque individu. Donc c'est comme du prêt-à-porter, dans le sens où on essaie de toucher un maximum de monde, mais c'est fait aussi sur mesure. Et donc, les programmes, ça dépend un peu des besoins de chacun. Donc on a des programmes qui sont des programmes très avancés pour des personnes qui seraient déjà formées, qui voudraient aller plus loin. On a des programmes plutôt pour des personnes qui sont en dehors du marché de l'emploi ou pour des jeunes qui se cherchent un petit peu au niveau de ce qu'ils veulent faire dans la vie. On a des programmes pour des personnes malvoyantes aussi. Donc on essaye vraiment de toucher un maximum de monde parce qu'en fait le numérique est une force intégrative extrêmement puissante. Et donc on peut donner à un maximum de gens un futur via ces nouveaux métiers.
Mais il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'examen, si je puis dire. C'est plus comme de la formation en alternance. C'est un peu une formation sur le terrain, si je puis dire.
Absolument. Et qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Parce qu'un diplôme, c'est un bout de papier. Et moi, je vois mon diplôme, il m'a servi à trouver mon premier job. Franchement, aujourd'hui, à part l'encadrer et le mettre quelque part en montrant à mes enfants, en disant à quel point j'en suis fier, il ne me sert pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Et c'est ça qu'on enseigne à Bicentrale, c'est de dire faites, apprenez en faisant, et nous on va vous guider vers les métiers. Et puis après, on va vous aider aussi à apprendre, pour que vous puissiez rester relevant tout au long de votre expérience professionnelle, et pour vous permettre ainsi au plus grand nombre, et à tout ce talent bruxellois. Moi je vois passer sur le campus, il y a 70 nationalités différentes, c'est unique dans le monde, une ville où il y a une telle richesse culturelle, ça n'existe nulle part ailleurs, c'est ça la beauté de Bruxelles. Et donc si on peut parvenir à mobiliser ces différents talents pour leur donner un futur, il y a une énergie formidable qui se dégage de ça.
Et donc Bruxelles n'est pas à la traîne, si je puis dire, en matière de numérique ou de développement numérique. On fait partie des métropoles qui sont à la pointe du numérique, on peut le dire comme ça ?
Absolument. On est une ville d'avant-garde sur toute une série de technologies. Et ça fait longtemps qu'on l'est. Il y a 70 ans, l'homme qui a pensé Internet avant tout le monde, il habitait dans cette ville, il l'a fait dans cette ville. Les chercheurs de pointe en intelligence artificielle de l'ULB et de la VUB, ça fait deux générations qui sont hyper bons dans ce domaine. Donc oui, nous sommes une ville numérique depuis très longtemps. On a une série d'acteurs de pointe, je pense à des sociétés comme Colibra, par exemple, qui sont des acteurs de pointe dans le domaine. Mais en plus, on a cette chance d'être une ville très multiculturelle, donc où on peut construire des solutions qui sont valables bien au-delà des petites frontières de cette région. Et en plus, on est la ville où l'avenir de la technologie se pense et se gouverne. Donc, il y a autant d'influence ici qu'à Pékin ou qu'à Washington. Et donc, il y a toute une série de choses et de discussions fondamentales qui peuvent avoir lieu dans cette ville qu'on peut avoir dans aucune autre ville d'Europe.
On aurait pu penser que Actiris ou l'EFP auraient pu remplir ce rôle que vous faites aujourd'hui. Pourquoi vous êtes-vous créé à ce moment-là ? Parce qu'il y avait un manque par rapport au numérique, spécifiquement, par rapport à ce qu'Actiris ne faisait pas, ne se modernisait peut-être pas assez, ou l'EFP qui n'était peut-être pas assez développé. Alors, dans ces secteurs-là.
Nous, on travaille main dans la main avec Bruxelles Formation et Actiris, donc vous ne me ferez pas dire du mal d'eux. Le point de départ, c'était quoi ? C'était
on
de se dire
ça,
que.
Alexia.
Voilà. mais le point de départ, c'était de se dire, en fait. Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a une quantité importante de jeunes qui n'ont pas vraiment de projet professionnel. Et c'est lié à toute une série de facteurs. Je pense entre autres à certaines une transformation nécessaire au niveau de l'éducation obligatoire. Mais peu importe. Donc il y avait ce besoin d'un côté et d'autre part le développement de tout un écosystème d'entreprises technologiques qui ne trouvaient pas de talent et qui du coup, quand elles levaient des fonds, allaient recruter des gens à l'étranger parce qu'elles ne les trouvaient pas ici. Et donc nous, le projet, il est né de l'envie de résoudre cette double problématique qui était à la fois de permettre aux entreprises qui sont nées ici, qui sont sorties des universités, des centres de recherche, etc., de pouvoir continuer à grandir ici et d'un autre côté aussi d'embarquer dans toute cette révolution numérique, d'embarquer des jeunes et des moins jeunes qui habitent ici et qui étaient en recherche d'un boulot. Et donc c'est là-dessus qu'on s'est lancé en travaillant effectivement avec les pouvoirs publics. Je pense par exemple Bruxelles Formation certifie les programmes qu'on a. Il n'y a pas de diplôme, mais par contre le fait qu'il y ait une certification, c'est vachement important parce que ça veut dire que ces personnes bénéficient d'un revenu de formation. Ça leur change la vie, le fait d'avoir un revenu de formation. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir travailler avec ces acteurs publics. On travaille aussi énormément avec les associations de terrain, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées, donc des clubs de foot, des maisons des jeunes, des maisons de l'emploi, etc. Parce qu'il y a vraiment ce besoin de pouvoir aller détecter les bonnes formations ou les bons programmes pour les bonnes personnes. Ça ne marche pas pour tout le monde. Nous, la quasi-totalité des programmes, il y a un sas d'entrée. Donc, il ne faut pas non plus vendre du rêve là où il n'y en a pas. Ce n'est pas forcément une solution qui convient à tout le monde. Mais par contre, en ayant une palette la plus large possible, on peut offrir quelque chose à quasiment tout le monde, mais une formation qui convienne et qui corresponde à ce que la personne a comme rêve professionnel.
Et cela permet effectivement à tous ceux qui passent par chez vous d'avoir quelque chose sur leur curriculum, avoir une formation qui va être adaptée, qui va être concrète et qui va leur permettre d'arriver dans une entreprise plus facilement. C'est d'ailleurs ce que font, j'en profite pour le dire, et peut-être que c'est une collaboration qui est possible aussi, les radios indépendantes, des radios comme la nôtre, comme d'autres, il y en a 80 à Bruxelles et en Wallonie, qui en fin de compte permettent à des jeunes et des moins jeunes de venir se former aux métiers de la radio qui sont très très multiples. Ça peut être animateur, ça peut être technicien, ça peut être informaticien, enfin il y a plein de choses. Et effectivement, on retrouve alors avec un grand plaisir des gens qui en font leur métier par après, alors qu'en fin de compte, ils étaient parfois en recherche, en décrochage scolaire pour les plus jeunes. Et il y a des je n'ai pas cité des noms, mais c'est assez surprenant de voir effectivement le chemin que certains ont parcouru et qui sont responsables, hauts responsables dans des radios dans différents domaines. Alors, Paul, peut-être une dernière intervention ?
Non, je voulais dire, mais peut-être brièvement à Alexia, que Laurent a souligné combien il y avait beaucoup de talent à Bruxelles. Et on manque un peu de fierté, en fait, à Bruxelles. Il a le courage de dire qu'on est bon, qu'on a du talent. Et on n'entend pas toujours ce discours.
Il a raison. On a une ville avec des ressources extraordinaires. Et je crois que Laurent les a soulignés. Aussi, je ne sais pas si tu as parlé des universités, villes universitaires dont sortent un nombre de start-up absolument extraordinaires. Donc ces ressources doivent être exploitées. Et c'est pour ça que mon rêve, pour revenir sur Bruxelles 2030, ce serait aussi qu'on crée des filières d'excellence. Et en fait, ça peut être dans des domaines divers et variés, mais de se fixer un cap et de se dire, voilà, comment est-ce qu'on met ensemble ces ressources pour aller vers un succès en 2030.
Merci beaucoup, Laurent Hublet, en tous les cas, pour ce témoignage. Je crois qu'il faut rappeler que ce genre d'initiatives existe à Bruxelles et qu'elles sont extrêmement enthousiasmantes. Merci beaucoup à Alexia de nous avoir invité, cette personnalité bruxelloise sur laquelle Bruxelles doit et peut compter. Dans quelques instants, nous poursuivons cet échange avec Alexia Bertrand. Un peu de musique, un peu de respiration musicale. Cela fait maintenant un petit temps que nous avons commencé cette émission avec Alexia Bertrand. Alors, on connaît mieux ses idées, on connaît sa bio, mais on a envie de connaître la femme qui vit au quotidien, de manière plus intimiste peut-être. C'est elle qui décidera ou pas de se livrer plus ou moins. Paul, je te laisse poursuivre cet entretien.
J'ai toujours une certaine admiration pour la journée d'une femme, d'une mère de famille, d'une chef de groupe, d'une conseillère communale, et j'en passais des meilleures. Une journée d'Alexia Bertrand, c'est la folie, parce qu'en plus vous vous déplacez à vélo, si je ne m'abuse.
Alors non, je me déplace quand même pas mal en voiture, mais c'est vrai que j'ai un vélo et un vélo électrique et que je fais beaucoup de vélo, en particulier pendant le week-end. Mais vous avez raison, Paul, je devrais reprendre la bonne habitude de prendre mon vélo pour aller au Parlement, ce que j'ai fait pendant un temps.
Et alors, vous courez dans tous les sens, toute la journée, comment ça se passe? Ou bien vous êtes suffisamment organisé pour pouvoir avoir plusieurs vies, si je puis dire?
Alors ça, je ne sais pas, mais on dit que les femmes peuvent faire différentes choses en même temps, et c'est vrai que mon WhatsApp, mes SMS et mon téléphone sont probablement un petit peu l'extension de ma main. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose, mais il faut penser à diverses choses. Et ça m'arrive de m'interrompre pour envoyer vite un WhatsApp pour m'assurer que mes enfants arriveront bel et bien au hockey ou à telle activité. Et j'arrive en fait à faire ça en même temps que ma vie de travail.
Mais il y a le rôle du mari aussi qui est important.
Heureusement qu'il est
là. Je suis certain qu'il est... C'est un modèle du genre, entre
Absolument.
Guillemets.
Absolument, et il sera très heureux de l'entendre.
Absolument. Mais en dehors de toutes ces activités, toutes ces obligations, si je puis dire, familiales, professionnelles et politiques, il y a peut-être des passions, des hobbies. Si vous avez encore un peu de temps à consacrer à ces hobbies, quels sont-ils?
Alors, je dirais que ma première passion, ça fait un peu bateau de dire ça, mais je crois que c'est vrai, c'est les gens. Et c'est peut-être pour ça que je fais de la politique. J'aime rencontrer les gens, ça me donne de l'énergie, j'aime leur parler et j'aime avoir des conversations vraies avec eux. Je pense qu'on est tous animés par les mêmes quêtes dans la vie, la quête du bonheur. Les mêmes choix, qu'on soit vieux, jeune, qu'on soit riche, pauvre, qu'on travaille ou pas, qu'on soit belge ou étranger. Finalement, ce sont les mêmes questions. C'est comment est-ce qu'on trouve le bonheur? Quels sont les choix qu'on pose en termes familiaux, en termes professionnels? Quel est le sens qu'on donne à notre vie? Comment est-ce qu'on trouve sa place dans le monde? Et ça, ce sont les conversations que j'aime avoir avec les gens. Et en fait, je vais vous faire une petite confession, c'est que, étonnamment, en fait, il y a moyen d'avoir ces conversations assez rapidement et avec beaucoup de monde. Et ça, ce sont les conversations qui, moi, me nourrissent, qui m'alimentent et dont j'ai l'impression de sortir grandi.
Est-ce qu'il y a parfois un peu d'agressivité vis-à-vis du monde politique? Pas vous personnellement, évidemment, mais quand on lit les réseaux sociaux, par exemple, c'est parfois un peu inquiétant.
Oui, c'est vrai, il y a de l'agressivité, mais elle s'exprime souvent beaucoup moins fortement dans le contact direct. Et puis quand on prend le temps, et quand je prends le temps de parler avec les uns et les autres, de les écouter, même si on n'est pas d'accord... Il y a toujours moyen d'avoir un débat et puis d'entendre. Et je crois que personne n'a raison tout seul, personne ne détient la vérité tout seul. Et donc je trouve que c'est toujours intéressant d'écouter les points de vue divergents. de les entendre. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout et on peut partir en restant sur des idées différentes. Mais il y a une richesse à l'échange. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me nourrit.
Et le voyage préféré, rêvé d'Alexia ou les voyages ?
Ah, les voyages. Mais c'est un voyage où on mélange probablement de la culture, un peu de marche, parce que j'aime vraiment bien marcher, des beaux paysages, des rencontres, et puis de la gastronomie, enfin pas de la gastronomie nécessairement fine, mais des bons produits du terroir, que ce soit en France, en Italie ou en Belgique. Et en fait, ça ne doit pas forcément être loin. Je trouve qu'en plus, le Covid nous a fait redécouvrir des régions, tant chez nous que tout près. Et donc, je trouve que l'Europe est une région absolument extraordinaire, avec des régions extraordinaires. Même la France, on n'aura jamais fini de la découvrir. Et donc, il y a des tas de régions françaises dans lesquelles je suis encore jamais allée. Je ne suis jamais allée en Bretagne, par exemple. Donc, je rêverais de découvrir la Bretagne. Et ça fait partie de ces petites splendeurs qu'on trouve pas très loin de chez soi.
Et à Bruxelles, alors, quel quartier, quelle originalité, peut-être un immeuble, quelque part.
En dehors de Woluwe-Saint-Pierre, évidemment.
Bien sûr.
Alors, je suis retombée récemment sur la façade de la maison Saint-Cyr à Schaerbeek, qui est juste absolument magnifique. C'est une maison qui doit faire peut-être 4 ou 5 mètres de façade, pas plus, et qui est un bijou d'art nouveau, art déco. C'est magnifique, il faut vraiment aller de la voir sur le square en Biorix. Et je me disais qu'on a comme ça tous des trésors cachés dans différents coins de notre région. Un musée qui vaut la peine d'être découvert, c'est le musée Van Buren à Uccle, si certains ne l'ont pas encore fait.
Tout à fait, effectivement.
Exceptionnel, ouais. tant pour ses jardins que pour le mobilier. Et en fait, c'est ça qui fait la richesse de Bruxelles, c'est qu'il n'y a pas juste un centre, il y a des tas de quartiers différents dans des communes, que ce soit au nord, à l'ouest, dans ma commune, on a le palais Stockley, qui est absolument extraordinaire, que je n'ai malheureusement jamais visité à l'intérieur. Mais donc, on recèle de petits bijoux dans chacune des 19 communes bruxelloises.
Il faudrait trouver un truc, si je puis dire, pour permettre au public de temps en temps accéder à ce palais Stockley, qui est peut-être une des 10 plus belles maisons du monde. D'après les plus grands architectes que je connaisse, ça mériterait, évidemment, je sais que c'est familial, il y a peut-être des tensions intrafamiliales et autres, mais ça vaudrait vraiment la peine que si la commune, si M. Sorex pouvait faire quelque chose, ce serait vraiment bien.
Oui, c'est vrai que ce serait...
Vous êtes un peu sceptique,
ce
apparemment.
Ce serait fantastique de pouvoir la visiter, je crois que d'autres ont essayé, et j'ai confiance qu'un jour, on pourra y accéder. Ça ne peut pas en être autrement quand on a une œuvre de patrimoine d'une telle richesse et beauté, je pense qu'un jour elle sera certainement accessible au public.
Alors, une dernière petite intervention. En quelques mots, quelques adjectifs, c'est qui Alexia Bertrand ?
Alors, c'est quelqu'un qui cherche du sens et qui trouve que la vie vaut la peine d'être vécue si on peut la rendre un petit peu meilleure pour autrui. Donc c'est quelqu'un qui aime le contact, qui aime la rencontre, qui aime se sentir utile. Voilà, c'est surtout, je crois que c'est surtout ça, qui aime apprendre. J'aime vraiment apprendre au contact des autres ou par les livres. J'adore les romans, surtout les romans psychologiques. Donc je lis beaucoup. Et je pense qu'en quelques mots, c'est probablement ça qui me définit. Je suis quelqu'un aussi qui aime essayer d'avoir une certaine rigueur dans mes dossiers. C'est important. Et voilà, je dirais ça.
Et un rêve politique, être bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, par exemple ?
Alors, je crois que quand on fait de la politique, c'est pour avoir de l'impact et donc pour essayer d'améliorer la vie des gens et de changer des choses. Donc, ça passe pas nécessairement par une fonction en tant que telle, ça passe par un projet plutôt. Et donc, moi, mon rêve politique, c'est d'améliorer, que ce soit ma commune, ma région ou le pays dans lequel je vis, et de pouvoir avoir un impact et de mener des projets à bout. Et c'est vrai que là, ça fait quand même un petit temps que je suis dans l'opposition, tant dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre que maintenant à la région. Et je pense que c'est important. En fait, j'ai quand même réalisé à quel point l'opposition, c'est important en démocratie. Il faut une opposition. C'est ça qui garantit le fonctionnement d'un système. Mais je pense que c'est satisfaisant aussi de pouvoir un jour faire partie d'une majorité et mener à terme des projets où on a l'impression qu'on a apporté un petit mieux quelque part.
Eh bien, merci beaucoup, Alexia Bertrand. Je crois que chacun aura pu vous découvrir un peu mieux, effectivement, et voir vos objectifs, votre caractère, vos sentiments, votre volonté d'aller plus loin pour les autres. Merci beaucoup, Alexia Bertrand. Merci beaucoup, Paul.
Merci, Alexia.